Adama Diop, un acteur shakespearien venu du Sénégal.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Et si Macbeth avait grandi à Dakar? Et si Brutus avait du sang noir? Et si le théâtre français redevenait un territoire sans frontières? Ces questions qui n'en sont pas rôdent malgré tout dans les coulisses d'un ensol majeur prêt à frapper les trois coups pour permettre à Adama Diop d'entrer en scène. 37 ans, ce physique d'athlète, passé par le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, aujourd'hui les bras chargés de 1000 actualités pour le Festival d'Avignon, a débarqué presque par hasard sur les terres théâtrales de Shakespeare, Molière, Brecht, Buchner ou Marine Diaye. À peine débarqué et déjà précédé d'un signe particulier, Adama Diop serait le premier Macbeth noir. Bon, c'est peut-être pas si vrai que ça. Et quand bien même, et si le théâtre avait des choses essentielles à nous faire vivre? Et si Macbeth était dans le fauteuil d'en sol majeur?
Le prince de Cumberland. Voilà une marche où je dois trébucher ou que je dois sauter, car elle est sur ma route. Étoiles, cachez vos feux. Ignorez dans la nuit mes désirs ténébreux. Et sans trembler, loin des regards, que la main fasse ce que l'œil, après coup, n'ose pas voir en face.
Bonjour, Adama Diop.
Bonjour.
Bonjour, Macbeth.
Bonjour.
Est-ce que la vie, c'est comme un petit théâtre pour vous?
Je ne crois pas, non. Je pense que j'ai tendance à vraiment séparer les deux, je crois. Malheureusement, parfois, les fictions ou la réalité peuvent se mêler. Parfois, la vie peut paraître être une fiction. Mais non, moi, j'essaie de vraiment dissocier ces deux choses.
Vous êtes sain de corps et d'esprit.
C'est le but, en tout cas.
En tout cas, je peux vous dire, moi, que tout Dakar et peut-être même tout Paris vous écoute. Vous aussi, vous écoutez la vie en stéréo?
Oui, parce que je pense que la vie... Ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, c'est tout le temps en stéréo. Donc parfois, il faut trouver l'onde claire et là-dedans. Mais oui, il y a toujours beaucoup de bruit autour. Ouais.
Concentré sur la scène 1 de votre enfance dakaroise, Adama Diop, vous avez reconnu quoi là?
Oh, c'est très émouvant. Je reconnais la multiplicité de cette ville, son émotion aussi, puisque je suis en France maintenant depuis 17 ans, bientôt 18. Donc du coup, c'est toujours très émouvant d'entendre ça.
Ouais, un peu de muezzin, façon Dakar,
ouais.
Un peu de mouton
oui.
Qui traverse
c'est ça.
Le paysage, un peu d'église aussi.
Bien sûr.
Un peu de bruit de sabar, de percussion.
Tout à fait. Bah, c'est un pays laïque en fait. C'est vrai que moi, les premières questions, on va dire, liées à la religion, je les ai rencontrées en France, puisque au Sénégal, c'est pas du tout un problème.
La France serait un pays moins laïque que le Sénégal?
En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même conception de ce que c'est que le mot laïque. Au Sénégal, on a plus tendance à laisser la liberté à chacun de croire en ce qu'il veut, alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est plutôt de gommer tout ce qu'on veut pour être lisse aux yeux de la République.
Vous êtes né en 81, donc sous l'ère d'Abdou Diouf,
oui.
Dans un Sénégal stable, hein, politiquement. Mm. Et qu'est-ce qu'on va dire? Dans une famille classe moyenne?
Oui, on va dire classe moyenne. Mes parents ont réussi tant bien que mal à nous faire vivre sans trop de problèmes.
Vous êtes l'aîné dans une fratrie de quatre, avec un papa comptable, une mère pharmacienne. On est quoi? Francophone, wolophone, foulaphone? C'est-à-dire, on parle le peul?
Ma mère est tout couleur, donc oui, il y a toujours eu le tout couleur pas très loin de son côté à elle. Wolof de fait, parce que mon père l'est, et puis c'est la langue nationale du Sénégal, donc c'est ce qu'on parlait le plus. Et puis le français non plus jamais loin, puisqu'à l'école, c'est la langue qu'on utilisait pour communiquer.
On vous destinait à quoi ?
Je ne sais pas. En tout cas, moi, je me projetais dans peut-être le journalisme.
Ah bon ?
Ouais. J'ai fait une fac d'anglais. Et puis dans mon idée, je voulais bien peut-être faire du journalisme. C'est quelque chose qui m'intéressait.
Donc être comédien, c'était pas du tout un rêve ?
Absolument pas. Non. Non, ça peut l'être difficilement au Sénégal, puisque c'est pas... Après, c'est de mieux en mieux. Ces dernières années, il y a des séries sénégalaises qui marchent plutôt bien. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes Sénégalais qui peuvent se projeter dans ce métier. Mais à mon époque, absolument pas.
Mais vous êtes la preuve du contraire ?
Oui. Après, le hasard parfois fait bien les choses. J'ai eu la chance d'être conduit, malgré moi, vers un torrent qui m'a amené ici, devant vous.
Donc quoi, un virus théâtral qui naît dans les cours de français
Pas du tout, non. Le hasard de rencontrer l'attaché culturel du lycée qui demandait à certains d'entre nous de faire partie d'un festival de théâtre auquel faisait partie notre lycée. Et j'étais là ce jour-là, et voilà.
Et ça va aller très vite. Vous arrivez en 2001 au conservatoire de Montpellier, dans le sud de la France. Sans problème, c'est-à-dire que vous toquez, la porte s'ouvre.
Alors la porte s'entrouve, on va dire. Parce qu'en fait, quand on est arrivé, les démarches pour venir en France sont très complexes. Donc ça a quand même pris beaucoup de temps de faire ces démarches-là pour venir. Et c'est vrai que du coup...
Démarche administrative.
Tout à fait. Et du coup, le temps de concentration, de travail sur les scènes, forcément, on en pâtit. Et puis les codes étaient extrêmement différents. Donc quand on arrive en France, on n'est pas vraiment prêt, comme le sont beaucoup de jeunes qui passent le concours du conservatoire. L'intelligence et le grand cœur d'Ariel Garça Valdez, qui était le directeur à l'époque, ça a été de dire, bon, c'est pas ça. Par contre, on vous propose de passer le concours en initiation et de passer par cette étape-là.
Et puis apparemment, vous êtes tellement doué, Adama Diop, que vous passez avec succès le concours du CONS, le Conservatoire Supérieur National Dramatique de Paris, en 2002, avec une scène de L'Avare de Molière. Mais alors, ça m'intéresse, vous dites, les codes, évidemment, de jeu sont différents selon qu'on joue à Dakar ou à Paris. C'est quoi les grandes différences ?
Alors au départ, d'ailleurs la scène de L'Avare c'était pour le conservatoire de Montpellier. En fait, ce qui change, il y a certaines écoles, je pense notamment au Sénégal ou même dans les ballets chinois ou tout ça, où les codes sont très expressifs. Très expressif. Alors qu'en France, on a et un travail chez le comédien, en tout cas d'une manière générale, où les choses peuvent se dire, le travail sur la subtilité. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait d'intériorisation, de faire attention au surjeu, de faire attention à ces notions-là qui, pour moi, à cette époque-là, n'avaient aucun sens. Je ne comprenais pas.
Vous allez jouer en professionnel dès 2008. On ira voir votre CV tout à l'heure, c'est promis. Mais on va d'abord passer une tête par le Festival d'Avignon. Où vous allez vous produire cet été. Vous allez être une des voix radiophoniques de France Culture, nos amis de France Culture, autour de la figure d'Achille, dernier des héros homériques, pour qui la présence du divin était une évidence. Et là, je cite le metteur en scène Wajdi Mouawad. Ça va ressembler à quoi ?
Alors, en fait, Wajdi écrit le texte. Le directeur, on va dire, ce sera Alexandre Planck qui s'occupe de diriger cette fiction radiophonique. Et donc, c'est une grande chance de travailler cette langue, de travailler sur ces figures-là, avec une équipe d'acteurs, musiciens très talentueux aussi.
Et vous allez être qui alors ?
Alors, je vais interpréter principalement Agamemnon, qui était ce qu'on appelait le roi des rois. Et puis, à un moment aussi, la figure d'Hector, qui est un petit peu le duelliste d'Achille.
Pas mal ?
Oui.
Ça fait partie de vos madeleines ou pas du tout, Homère et toutes ces figures de la mythologie.
Alors pas au départ, non. C'est vrai que c'est une mythologie qui était très loin de la mienne, du Sénégal. Mais plus j'avance, et je ne maîtrise absolument pas. Mais c'est vrai que ça donne très très envie d'aller très loin dans l'Odyssée et dans l'Iliade.
Autre pièce, si on a raté Achille, Elles disent l'Odyssée,
oui.
Où là c'est Jean-Luc Lagarce qui détourne l'Odyssée, c'est ça ?
Oui, tout à fait, et qui sera autour de la figure d'Ulysse, Pénélope, Télémaque et tant d'autres. Et cette fois-ci, ce sera sous la direction de Christophe Hockey, donc voilà, qu'on jouera pour la radio le 20 juillet.
Donc vous savez pas grand-chose, mais est-ce que vous savez quel genre d'Ulysse vous allez être ?
Pas encore, parce qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore travaillé, mais on va essayer de s'amuser.
Bah justement, à propos d'amusement, est-ce que vous nous offririez un extrait de « Elles disent l'Odyssée » et votre serviteuse va se plier à l'exercice de la Pénélope d'occasion. vous me dirigez. Hein.
Parfait, ce sera super. Merci beaucoup. Les nouvelles sont vraies. La peur est terminée. Morte aussi. Ulysse est de retour.
Les dieux inventent des fantômes plus exacts encore. Ils me reproduisent une nouvelle fois sur les chemins de l'espoir.
Ce bateau est mon bateau. Les voiles blanches ne sont pas des rêves. Je suis Ulysse, Je suis celui que tu attends.
Les femmes crient et pleurent de joie. Les prétendants ne savent rien encore. Ils méprisent mes larmes. Les dieux t'envoient pour se moquer de moi, pour me rendre plus folle.
J'ai connu la soif et le froid. J'ai connu la peur et la mort. J'ai abandonné des milliers de souvenirs.
J'ai répété des heures que tu étais là, tout près de moi, et je pouvais dormir. Je l'ai répété des jours et des nuits. J'ai dit des milliers de fois la même chose.
Il faut me croire. Il ne faut plus avoir peur. Il faut que nous nous reposions ensemble de nos voyages.
J'ai traversé les mers, les océans. J'ai oublié le temps, et le temps ne m'a pas oublié. J'ai perdu le visage calme de ton départ. Je hais la mer qui t'engloutit et qui ne te ramène pas.
Nous avons la fatigue des années sur les épaules, mais nous pouvons vivre encore. Si je te dis qu'il faut oublier, que c'est possible.
Je ne sais plus rien faire que des pas lents de rocher en rocher. Je ne sais plus rien faire que des sourires tristes. J'ai épuisé la vie à deviner ton corps et ton retour. Mes yeux sont presque morts de lumière et de larmes. Un grand merci en sol majeur, Adama Diop.
Merci à vous.
Pour cet extrait de pièce radiophonique. Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs dans cet exercice radiophonique?
J'ai fait ça par hasard une première fois avec une réalisatrice qui s'appelle Marianique Bello. Et en fait, ce que j'ai trouvé super, c'est que d'un coup, l'enjeu pour un acteur sur scène, on nous voit au cinéma, on nous regarde. Là, d'un coup, on se concentrait sur la langue. Et j'ai trouvé ça très intéressant en tant qu'interprète de devoir s'adonner à cet exercice parce que d'un coup, on s'efface un peu plus que quand on était sur scène. On est au service du texte, on est au service du réalisateur et quelque part, voilà, cette notion d'effacement me plaît assez.
Le texte est central comme jamais.
Tout à fait, il est très central. La concentration, l'énergie qu'on donne, tout ça est dirigé vers une même chose qui est le sens et le texte, quoi. Donc ça me plaît beaucoup.
C'est quoi un acteur pour vous ?
C'est une question très compliquée. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de sortes d'acteurs, et c'est ça qui fait d'ailleurs la richesse de ce métier. Et puis surtout, je pense que l'acteur, c'est un corps qui évolue, c'est un corps qui change. Je pense que je ne suis plus le même acteur quand j'ai commencé et maintenant. Mais je pense que peut-être une définition de l'acteur, ce serait, d'ailleurs c'est un des mots qu'on utilise, c'est interprète. Voilà, je pense que chaque metteur en scène a sa langue, et notre travail, c'est de comprendre cette langue-là du mieux qu'on peut, la traduire au public.
Et si on retournait sur les quais pour réentendre comment il faisait le Marlon Brando ?
It wasn't him, Charlie, it was you. You remember that night in the garden you came down my dressing room and said, kid, this ain't your night. We're going for a price on Wilson. You remember that? This ain't your night. My night, I could have taken Wilson apart. So what happens? He gets the title shot outdoors in a ballpark, and what do I get? A one-way ticket to Palookaville. You was my brother, Charlie. You should have looked out for me a little bit. You should have taken care of me just a little bit so I wouldn't have to take them dives for the short-end money.
Well, I had some bets down for you. You saw some money.
You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum. Which is what I am. Let's face it.
Ah, comme Actors Studio.
Avec pour en sol majeur un Marlon Brando qui mouille le maillot façon Actors Studio, donc avec cette méthode de Lee Strasberg inspirée de Stanislavski, pour qui il, donc je cite, il fallait puiser dans ses propres affects pour créer l'émotion et pour faire ensuite exister le rôle. Est-ce que c'est votre méthode à vous de travail, Adama Diop ?
Alors, je crois que j'ai plusieurs méthodes de travail qui vont, encore une fois, dépendre un petit peu du metteur en scène avec qui je travaille. Cette option dont vous venez de parler est possible, et l'inverse est aussi possible.
C'est-à-dire ?
Par exemple, un metteur en scène pourra me dire « Moi, je m'en fous de ce que tu ressens, je m'en fous d'où tu puises tes sentiments. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est ta position par rapport à la lumière. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois extrêmement précis au plateau. Voilà. Après, comment tu cherches ton travail, ça ne m'intéresse absolument pas.
Tu rentres, tu sors, tu vas à gauche, tu vas à droite.
Exactement.
Est-ce que c'est suffisant, ça, comme indication ?
Ça peut l'être. En fait, tout est une question de cohérence. Moi, je pense qu'il n'y a pas une manière de faire ce métier. Après, il y a des méthodes plus ou moins qui nous parlent, qui nous passionnent. Mais je pense que tout est une question de cohérence. On peut se retrouver avec un metteur en scène qui est extrêmement technique. Il va être comme un peintre. un metteur en scène comme Bob Wilson est comme ça, par exemple. Et du coup, c'est à toi, l'acteur, de puiser ce qu'il te faut pour être au bon endroit, et dans le fond, et dans la forme. Par contre, il y a des metteurs en scène qui sont vraiment des directeurs d'acteurs. Par exemple, un metteur en scène comme Stéphane Braunschweig, avec qui j'ai travaillé, va être au mot près, à la phrase près.
Donc vous ne passez pas forcément par la phase 1 qui serait l'introspection sur soi, et la phase 2 qui serait l'incarnation.
Alors plutôt pas, d'ailleurs, chez moi en tout cas, puisque j'essaie de mettre en avant, c'est pas moi, mais c'est plutôt la littérature et le travail artistique que va me proposer le metteur en scène. Donc les premiers endroits sur lesquels je me concentre, c'est ça, c'est comment je vais essayer de comprendre l'auteur et le metteur en scène. Et ensuite, c'est comment moi, je vais réussir à dialoguer avec ces deux artistes.
Est-ce que Marlon Brando peut être un modèle, lui, dont on disait que finalement, il ne jouait pas, il était derrière la caméra?
Oui, évidemment, c'est un immense acteur. Je pense que pour nous autres jeunes acteurs, tous ces acteurs-là, avec une expérience et un talent aussi fou, sont forcément des exemples. Alors, je n'imiterai pas Marlon Brando pour autant, mais en tout cas, le fait de le voir au travail sont des choses passionnantes à chercher pour un acteur.
Donc l'an dernier, vous étiez effectivement sur la scène du théâtre de l'Odéon à Paris, mise en scène par Stéphane Braunschweig, donc qui dirige ce théâtre, dans le rôle de Macbeth, je rappelle, ce général écossais dévoré d'ambition et qui, après avoir tué le roi pour prendre sa place, poussé par Lady Macbeth, sombre dans la folie et dans le désespoir. Moi, j'ai pas vu malheureusement cette pièce avec Braunschweig et vous sur scène. Mais quelle est la scène qui vous a demandé le plus, parce que justement tellement éloigné de ce que vous êtes, Adama?
En fait, la complexité pour moi, ça n'a pas été le fait que ce soit loin de moi, puisque ça a tendance à plutôt m'exciter, en fait, le fait de devoir jouer quelqu'un qui est loin de moi, parce que justement, je me confonds pas entre ce que moi je pense et ce que pense le personnage. Il y a un truc où j'oublie Adama et je deviens Macbeth. Donc la complexité n'a pas été là. La complexité, ça a été de s'attaquer à ce monstre, en fait. Donc pour moi, ça a été une grande chance que...
Parce que quoi? Ce mélange d'émotions en lui
Oui, c'est un personnage qui est comme tout le monde au départ. C'est quelqu'un qui veut travailler pour son pays, qui veut être bon, qui veut être grand, qui veut être aimé des gens. Et par ailleurs, est nourri d'ambition, quoi. Shakespeare est fort pour ça. Il embrasse toute la complexité humaine. C'est pas qu'un méchant, sinon ce serait pas intéressant. C'est quelqu'un au départ qui a beaucoup de remords, qui se demande si c'est la bonne solution, mais je peux pas faire ça parce que c'est mon ami, c'est mon cousin, mais qui finit par passer à l'acte. Et c'est comment lui, une fois que c'est fait, il sombre petit à petit dans une folie meurtrière. Elle aurait dû mourir plus tard. Alors il lui aurait eu un temps pour un tel mot. Demain, et puis demain, et puis demain. Jour après jour, à petits pas, avance ainsi, jusqu'à la dernière syllabe du registre du temps. Et tous nos hier auront éclairé pour des fous la voie vers la poussière de la mort. Efface-toi, brève chandelle. La vie n'est qu'une ombre qui marche. Un pauvre acteur qui se pavane et se démène une heure en scène et puis qu'on n'entend plus. Elle est un conte conté par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien.
Comment on se sent en sol majeur en disant ces vers de Shakespeare, Adama Diop?
Bah, c'est magnifique, hein. C'est là où on est chanceux d'être des acteurs, c'est qu'on a la chance de dire les mots de certains auteurs comme Shakespeare qui sont extraordinaires. Donc c'est toujours une émotion de redire ces mots puisqu'il dit est magnifique. Donc ouais, très ému.
Je rappelle que votre nom est sorti pas mal dans la presse et on vous présentait comme, je cite, le premier acteur noir à jouer Macbeth, ce qui n'est pas complètement vrai d'ailleurs.
Non, je crois pas.
Mais ça dit quelque chose évidemment de notre époque et de notre France. Comment vous le vivez ça? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est complètement hors sujet?
C'est un peu tout ça. Enfin, plutôt d'ailleurs, c'est complètement hors sujet déjà. Et c'est triste. C'est complètement hors sujet en fait.
Pourquoi c'est hors sujet?
Parce que la question ne c'est pas de savoir si le Macbeth est noir ou pas, c'est la question de savoir est-ce que son interprétation est intéressante, quel est ce nouveau Macbeth là, comment on ferait avec n'importe quel autre acteur en fait en France.
Mais et c'est... comment vous l'avez vécu alors? Parce que malgré vous, vous êtes une sorte de porte-drapeau tout à coup, sans le vouloir.
Bien sûr, j'en suis conscient. D'un côté, j'ai envie de pas y penser parce que, au départ, je fais ce métier-là parce qu'il me passionne. Donc, c'est juste l'artiste qui veut faire son travail d'artiste. Et de l'autre, ce serait complètement idiot d'ignorer cette situation-là et de pas la prendre en compte. Alors, moi, dans l'idée, je ne la prends pas directement en charge. J'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Après, je pense toujours à un jeune acteur ou à un jeune pas encore acteur qui me voit, qui se dit, tiens, moi aussi, je peux faire ça. Donc, c'est toujours quelque chose qui n'est jamais loin.
Oui, parce que en même temps, si on vous regarde et si on regarde votre parcours, vous jouez de très grands auteurs avec de très grands metteurs en scène. On a l'impression que la France vous sourit. Alors, est-ce que ça présage d'un véritable changement, de quelque chose qui est en marche, ou est-ce que vous êtes simplement l'exception qui confirme la règle ?
C'est une très bonne question. Effectivement, c'est un pays assez schizophrénique, la France. Et moi, j'évolue dans cette schizophrénie, à savoir, j'ai de la chance, on me propose plutôt des rôles chouettes, et puis...
C'est la chance, vous pensez ?
Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Dans nos métiers, je pense qu'il y a quand même un facteur de chance. Alors peut-être que mon parcours aussi donne des envies à des gens de me proposer des choses. Mais non, c'est encore très compliqué en France.
Quand vous entendez des metteurs en scène ou des directeurs de théâtre dire « il n'y a pas d'acteurs noirs en France », vous répondez quoi ?
Bah que c'est faux, c'est complètement faux, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes noirs, il y en a de plus en plus dans les écoles. Les gens qui sortent, moi j'en connais pas mal, donc il y en a. Après, voilà, je trouve qu'il y a une vraie évolution ces dernières années. Je trouve que de plus en plus on voit les acteurs formidables de tous horizons, notamment noirs, sur les plateaux de théâtre, et c'est bien la preuve qu'il y en a.
Si on revient à Macbeth, ce personnage qu'on présente donc comme un général ambitieux, dévoré, etc., joué donc, il est noir. Enfin, dans la pièce, est-ce qu'il est noir ?
Pas du tout.
Il n'est pas du tout noir.
Non, hein. Pas du tout.
Bon, pourquoi ce choix de Braunschweig ?
En gros, Macbeth est une pièce qui l'accompagnait depuis un petit moment. Il m'a vu jouer à Avignon il y a quelques années dans un spectacle de Julien Gosselin, et c'est là qu'en me voyant, il s'est dit en fait, voilà, je crois que cet acteur-là. Parce qu'il n'avait pas encore trouvé un acteur qui pouvait, selon lui, interpréter ce rôle. C'est en me voyant qu'il s'est dit « je pense que j'ai trouvé mon Macbeth ».
Bon, Braunschweig a vu l'acteur que vous êtes.
Tout à fait.
Visage noir, ce Macbeth, pour un masque blanc peut-être. Ok, Macbeth est noir, sous la direction de Braunschweig. Et en même temps, est-ce que c'est pas un blanc à l'intérieur ? Vous savez comment on le dit hein, sur le continent ? On se balade souvent en sol majeur sur le continent. Et on peut entendre les Africains eux-mêmes se traiter de blancs parfois parce qu'ils ont un comportement X, Y, Z dans le boulot, etc. Est-ce que vous diriez ça de Macbeth ?
Non, je dirais pas ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas une question de couleur. Encore une fois, je pense que ce personnage-là existe par son biais à lui. Donc il devient lui. Donc ça dépasse le stade... du fait qu'il soit chevelu, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit noir, qu'il soit une femme ou un homme. Mais c'est comment, qu'est-ce que l'acteur en fait ?
Bref, vous rencontrez des Macbeths autant en France que à Dakar, à Abidjan ou à Conakry.
Absolument, des jeunes hommes ambitieux, rongés par le doute, il y en a sur tous les continents.
Quand est-ce que le théâtre ou quand est-ce qu'un rôle vous a transformé, réveillé, déplacé, je dirais même, intérieurement ?
C'est une bonne question, waouh. C'est difficile d'y répondre précisément. Évidemment, il y a un avant et un après Macbeth, ça c'est sûr. J'ai interprété plusieurs rôles qui m'ont changé. Wojciech a été un moment très intense.
Buchner ?
Le Buchner, tout à fait.
Et Wojciech, c'est intéressant justement, sur la question raciale notamment.
Absolument, absolument.
Redites-nous.
D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'était que le metteur en scène Jean-Pierre Barrault lisait ce texte-là par le biais de son père qui était un immigré sénégalais et donc où il reconnaissait vraiment Wojciech. Donc effectivement la question en tout cas de la classe sociale, la question d'une classe dominante et qui impose ce jeune soldat qu'on dit fou et pourtant qui a une parole assez lucide mais les figures du médecin du général qui le rabaisse tout le temps, c'était intéressant de l'approcher et puis c'était très douloureux à la fois puisque ça touchait un endroit où plein de jeunes hommes, en l'occurrence là puisque c'est moi qui l'interprétais noir, vivait au quotidien.
Vous jouez souvent la folie.
Oui, c'est vrai que là, si on prend l'exemple de ces deux pièces-là, oui, c'est des personnages assez... D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à Wojciech en jouant Macbeth. Il y a quelque chose de commun dans ces deux personnages.
C'est délicieux de jouer la folie.
Oui, c'est grisant. Moi, je crois que dans la vie, je suis un garçon plutôt mesuré. Et d'un coup, d'avoir la possibilité de péter les lignes, c'est plutôt agréable.
Quel rôle vous refuseriez de jouer ?
C'est difficile de répondre comme ça, tout est une question de contexte. J'ai un rapport extrêmement compliqué avec la nudité, donc je pense que pour l'instant aujourd'hui je ne pourrais pas accepter un rôle où je dois être nu, par exemple.
Bon ?
Oui, c'est quelque chose que je suis un garçon très très pudique. Donc déjà c'est d'ailleurs assez paradoxal que je fasse ce métier parce que
Oh, c'est un grand classique, je dirais, moi.
C'est vrai.
Il y a des grands timides hein, sur les scènes.
Bah voilà, donc c'est un peu... Je ne me considérais pas comme timide, je ne suis pas timide, mais en tout cas, je suis très pudique. Et c'est vrai
donc
que...
la nudité, ah, ça dépend comment.
Ça dépend comment, comment c'est fait, à quel endroit, comment... Mais la nudité intégrale sur un plateau de théâtre, par exemple, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas possible.
Vous n'êtes pas prêt à jouer avec Isabelle Huppert, alors.
Oh si, il y a plein d'autres choses possibles.
Alors, on parle de la couleur, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y a surtout pas ça, mais il y a ce que vous êtes, et vous êtes multiple, bien sûr, Adama Diop. Est-ce que plus intimement dans votre travail, vous diriez que votre double culture, et c'est limitatif de le présenter comme ça, vous êtes plus que double culture, vous, j'ai l'impression. Est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça ne vous sert absolument pas dans votre travail d'acteur ?
Ça me sert énormément, énormément. Puisque c'est une richesse de venir d'un pays où la manière de penser ou la culture est extrêmement différente dans le pays d'adoption. C'est une très grande richesse, mais effectivement, vous avez raison, parce que ça va au-delà de ça. Grâce à nos métiers, on voyage énormément. Donc, on prend d'un peu partout dans le monde.
Mais alors, dites-nous, donnez-nous un exemple sur un rôle, par exemple, sur une partition en particulier.
Ce ne sera pas aussi précis et technique que ça. Ce sera, en tout cas, une ouverture. On n'arrive pas devant un rôle en ayant déjà quelque chose d'une image fixe de ce que ce rôle pourrait être. On n'arrive pas devant Macbeth en disant « Ouais, Macbeth, il est comme ça, justement. » Non. On se dit « Tiens, j'ai rencontré, je dis n'importe quoi, en Chine, un gars qui m'a parlé de ça et ça me fait vraiment penser à ça. » Et d'un coup, le spectre, en tout cas, les portes possibles deviennent énormes. Les différentes manières d'aborder les personnages deviennent énormes. Et d'un coup, je pense pour un interprète, c'est d'avoir eu beaucoup de chance que d'aborder un rôle avec un spectre réduit, mais de l'aborder d'une manière multiple, en fait, quoi.
Le métissage vous parle et vous l'avez même désiré en sol majeur avec l'Ambarena Back to Africa de ce cher Hugues de Courson et Pierre Akendengue. On adore hein, par ici en sol majeur. Qu'est-ce qui vous botte, vous, dans cet album ?
La découverte a été un bouleversement, en fait. Vraiment un bouleversement. D'un coup, entendre Bach avec des instruments traditionnels et des chants traditionnels qui viennent de plusieurs pays d'Afrique ont eu un écho émotif très fort chez moi.
C'est fou, je vois la silhouette de Macbeth traverser ce Lambarena. C'est le métissage hein, qui est en train de tisser sa toile dans vos oreilles en sol majeur avec l'album Back to Africa Lambarena. On papote sur RFI avec Adama Diop, un intermittent du spectacle qui voyage lui aussi entre Shakespeare et Sangor. Sangor à qui l'on demandait un jour si la foi était une chose importante.
La foi est une chose importante dans ma vie quotidienne. Je prie, en latin d'ailleurs, n'est-ce pas, le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Vous voyez, par exemple, à la deuxième tentative de coup d'État, le soir, je me suis mis à genoux j'ai fait ma prière et je me suis reposé en paix. À 5 heures du matin, on a frappé à ma porte, on a dit il y a une délégation de l'armée. Je me suis levé, j'ai mis ma robe de chambre, je suis descendu avec ma constitution et j'ai expliqué pendant une demi-heure à la délégation. Ils ont dit, nous avons compris, le problème était réglé. Bien sûr, qui veut la fin, veut les moyens. J'ai essayé d'assimiler l'esprit de méthode et d'organisation de l'Europe, mais il y a la foi. Vous comprenez, les problèmes ne sont pas aussi simples.
Ah, comme arbre à palabre.
Son latin, sa robe de chambre et sa constitution, c'est vraiment un style inimitable. Vous n'avez pas dû vous inspirer de ce poète président qui était Senghor pour interpréter ce tyran de Macbeth, Adama Diop.
Non, par contre, quelle chance d'avoir été un enfant bercé par les poèmes de Senghor. Le fait d'avoir un président poète est une grande chance et je pense que quelque chose...
Pourquoi c'est une grande chance ?
Parce que je pense qu'on n'appréhende pas le monde de la même manière quand on est poète. Et Senghor avait cette richesse d'être un homme politique. Alors je ne jugerai pas l'homme politique, j'étais très jeune et je ne le connais pas précisément sur ce domaine-là, mais plutôt par rapport à sa poésie. Mais je pense que son combat par rapport à la négritude a fait de nous des jeunes enfants fiers de ce que nous étions. On fait de nous des jeunes enfants qui étions intéressés par la langue, par la poésie d'un homme qui a été notre président, donc un phare.
Senghor, pour qui la négritude était une culture, carrément, pour Césaire, c'était plutôt le rejet de l'assimilation. Et souvent, nous, on croise des trentenaires du continent, pour en sol majeur, qui nous disent, cette définition de la négritude, aujourd'hui, elle est complètement has-been. C'est pas votre avis à vous ?
Je pense que c'est pas faux. Je pense qu'effectivement, le combat qu'ils ont fait était dans un contexte qui était le leur et que ce contexte-là, aujourd'hui, a évolué. Moi, je me reconnais beaucoup, par exemple, aujourd'hui, chez Achille Mbembe ou chez Felwinsar, qui, grâce à Senghor, à tous ces gens-là, mais vont plus loin. Donc, effectivement, je dirais pas pour autant has-been parce que Senghor, c'est un poète, donc je pense que les poèmes n'ont pas de temps. Il y a quelque chose qui nous parle toujours. Par contre, oui, on continue la réflexion, on va encore plus loin.
Il ne faut pas oublier de capitaliser, n'est-ce
pas ?
Oui, c'est quelque chose à préserver. Quand on entend Senghor, évidemment, on entend aussi les années coloniales et post-coloniales. Est-ce que l'histoire de la colonisation, c'est quelque chose qui est très loin pour vous ?
Ah non, elle est très présente, malheureusement. Mais d'ailleurs, elle a été présente par ricochet, parce que je pense que quand on est adolescent, jeune homme, on est préoccupé par d'autres questions que ces questions-là. Donc c'est là, c'est dans l'air ambiant, mais on ne s'en soucie pas vraiment.
Qu'est-ce que vous voulez dire par « elle est très présente » ?
C'est jamais loin. L'île de Gorée est quand même un endroit qui est extrêmement connu à Dakar, donc on sait ce qui s'est passé dans nos cours d'histoire.
Donc l'île de Gorée, où il y a la porte du non-retour,
exactement,
d'où partaient les esclaves.
Donc c'est quelque chose des enfants qu'on apprend. Le camp Tiaroy, qui a été un camp aussi où ont été fusillés beaucoup de tirailleurs sénégalais juste pour avoir demandé leur solde. Donc ce n'est jamais loin.
Votre famille aussi.
Dans ma famille aussi, c'est vrai que le petit frère de ma grand-mère a fait la guerre d'Indochine. Et mon grand-père, le père de ma mère, était aussi un pompier français. Donc c'est vrai que la question de la colonie, la question de la violence de la guerre, la question de la violence du racisme est présente.
En tout cas, avec ce fardeau sur le dos, si j'ose dire, cette histoire commune que nous avons, fardeau aussi d'être à un carrefour, comme vous l'êtes, entre plusieurs cultures. Avec ce fardeau, il y a une figure d'historien qui vous guide un peu, vous l'avez cité à l'instant, c'est Achille Mbembe, Camerounais d'origine, qui vit en Afrique du Sud, et à qui l'on demande s'il pense, pour reprendre Fanon, que nous sommes, nous, les enfants du continent, je m'inclus, si nous sommes sortis de la longue nuit africaine.
Moi, je me situe dans une tradition intellectuelle noire, africaine, diasporique, où le rôle de l'intellectuel est quand même celui du veilleur, qui essaye de scruter dans la nuit les éclaircies qui annoncent l'aube. Ce fut le cas de tous, comme Fanon, comme Jean-Marc Ella, comme Césaire. Et donc, cette fonction de veilleur et de témoin, et du compagnon, dans ce que Fanon définissait comme une marche. Tout cela me semble être absolument central pour une démarche critique. Qu'il ne soit pas la démarche d'un étranger, si vous voulez, ou la démarche de quelqu'un qui s'en fout. L'Afrique, je ne m'en fous pas, non.
Sur RFI, Achille Mbembe, donc en veilleur, Adama Diop, il vous guide de quelle manière, cet historien ? Des post-colonisations, hein, c'est comme ça qu'on le présente.
Qu'on le présente, ouais. Bah, disons qu'en fait, je trouve qu'il pousse le débat à un endroit beaucoup plus complexe que juste être noir. Lui, ce qu'il dit que je trouve très très fort, c'est que il faut plutôt se mettre ensemble en communauté objective de destin, plutôt que d'être proscrit dans une identité. Il dit aussi que être né quelque part, on y naît accidentellement, c'est pas une question de choix. Et je trouve ça vraiment passionnant parce que d'un coup, on dépasse la question d'être noir ou d'être, voilà, on va un peu plus loin, on parle de qu'est-ce qui constitue un être humain. Et ça me passionne effectivement par rapport, on parlait de Senghor et tout ça, où il y avait un besoin de parler de la négritude, de la fierté de cette chose-là. Aujourd'hui, on va un peu plus loin grâce à lui. Ainsi qu'un penseur comme Félouin Sarr, c'est de dire, on a pendant beaucoup trop longtemps, penser la cause raciale noire ou en tout cas du continent noir dans une sorte de dualité avec l'Europe, notamment ou la France. Le monde, il est immense en fait, quoi. Mmh. Et que du coup, on va décentrer le débat. C'est comment nous, on se place face au monde, face à l'Asie, face à la Chine, et que la France et le continent européen c'est un vieux continent et qui est un peu lourd.
Mais vous êtes, vous, le Sénégalais d'origine. On peut déjà vous présenter comme ça au bout de quelques années ici en France. Vous êtes dans cette vieille Europe, dans cette vieille France aujourd'hui. Achille Mbembe dit que l'intellectuel a un rôle. Est-ce que l'acteur, il se trouve que celui que j'ai devant moi, il est métissé, est-ce qu'il a un rôle aussi dans la société ?
Oui, je pense que chacun à notre niveau, on a un rôle dans la société. Le théâtre, si on en revient à son origine, avait un rôle majeur. Quand même, chez les Grecs, le fait qu'on vienne sur une scène invoquer les dieux pour que la sortie puisse avoir la catharsis et pouvoir retourner dans nos vies.
La preuve, c'est que vous avez dit les mots des Black Panthers sur scène. Dans quel contexte ?
Alors, c'est dans un contexte de spectacle mis en scène par Julien Gosselin. Donc, c'est 2666 de Roberto Bolaño.
Un spectacle qui a marché énormément. Hein. Ça a été un événement, on peut dire.
Tout à fait. Ouais, c'est un spectacle qui durait 12 heures. Et notamment, dans ces 12 heures-là, il y avait un monologue d'un prêcheur noir américain qui s'appelle Barry Seaman, qui est inspiré de la figure de Bobby Seale des Black Panthers, qui était un des fondateurs de Black Panthers.
On peut l'entendre ?
Oui, avec plaisir.
En version originale.
I founded with Marius the Black Panthers. We worked whatever jobs we could get and we bought shotguns and handguns for the people's self-defense. But the mother is worse more than the black revolution that I can promise you. In my long and eventful life, I've seen many things. I was in Algeria, in China, and in several prisons in the United States. Nothing is as precious as a mother. This I say here, and I'll say it anywhere, anytime.
Wow. Vous avez pris des cours avec Morgan Freeman ?
Ah, j'aurais aimé ça.
Quel accent ! Ça, pour le coup, vous n'êtes pas français, vous avez un super accent.
Oh, il y a des Français qui parlent. C'est vrai que les Français sont réputés pour ne pas trop travailler les autres langues.
Mais un grand merci en sol majeur, Adama Diop, pour cet extrait donc en anglais de Barry Seaman, inspiré de Bobby Seale, une des figures des Black Panthers. Ça change quoi alors de jouer en anglais pour vous ?
Ah, ça change beaucoup de choses, puisque c'est pas le même mode de pensée, c'est pas le même mode du coup aussi de parler, c'est pas...
On est sur un ring, hein, quand on vous entend.
Oui, là en l'occurrence, c'est vrai que c'est vraiment un prêcheur, donc il s'adresse tout seul devant une assemblée, devant une foule, pour vraiment défendre son idéologie. Donc il y a quelque chose effectivement de l'ordre du combat, de la lutte politique.
Malcolm X a été votre coach en fait.
Alors, non, pas tout de suite, c'est marrant parce que j'y plonge plutôt maintenant.
Et pourquoi maintenant ?
En tout cas, il y a quelque chose dans notre société en France aujourd'hui qui fait écho à la société américaine dont il parlait à son époque.
À ce point ?
Oui.
Vous parlez de l'Amérique ségrégationniste des années 60 ? Vous retrouvez quelque chose de ces stigmates ici en France aujourd'hui ?
Disons que quand on voit par exemple les violences policières, oui... En tout cas, il y a une sorte de violence très forte de se sentir exclu d'une société, en danger face aux forces de l'ordre. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il raconte sur la difficulté d'être différent
Et donc, quand vous montez sur scène aujourd'hui, vous êtes quand même chargé de ça.
Ce serait mentir que de dire que j'ignore absolument le combat que moi je défends, la complexité que d'être sur une scène et d'être noir encore aujourd'hui. Donc oui, c'est là. C'est pas tout le temps en conscience pendant que je suis sur le plateau. C'est d'être concentré sur mon personnage et sur le travail que j'ai à faire. Mais c'est là, oui.
Alors, il y a plusieurs acteurs en vous. On est en train de le découvrir. Il y a l'acteur nu. Pas au sens propre, pas encore. En tout cas, au service d'eux. Et puis donc, il y a quand même l'acteur né quelque part, sans compter que la Dama Diop qu'on a devant nous aujourd'hui pour un sol majeur est tellement née quelque part qu'il chante en wolof.
Yo, samawai, dede tit ngai, dede jahle ngai, yo. Yo samayai dede tit ngai dede jahle ngai yo bodek lo khibari ngagana tit ngagana jahle so khole yo khibari ngagana tit ngagana jahle ñowalak man nañ dem tukki buntit dara dara andalak man nañ dem tukki buntit dara dinga gis dinga gis dinga gis
té comme trousseau de clé.
C'est vous ça, Adama Diop? T'entends Dakar?
Oui, c'est moi, c'est moi.
De Macbeth donc à Tukibuki, je vous présente le grand écart de Adama Diop. Un mot alors de ce duo qui s'appelle Tukibuki, ça veut dire quoi?
Alors Tukibuki, on s'est inspiré d'un film de Dibril Diop Mambéty qui est un réalisateur sénégalais. Donc il a fait un film de ce nom donc, où c'était deux personnages qui rêvaient d'aller en France. Tout qui veut dire voyager, ça correspondait assez à notre duo.
Et qu'est-ce que vous racontez là dans cette chanson Wolof?
C'est une chanson qui parle des peurs qui malheureusement engloutissent nos sociétés. C'est un personnage qui dit « N'aie pas peur, viens avec moi, viens découvrir par toi-même. » Parce que malheureusement, trop de fois, les gens ont des références, réfléchissent, ressentent via un média, via quelque chose, et jamais par eux-mêmes. Et donc là, la proposition, c'est de dire viens voir par toi-même. Et en fait, cette peur-là, tu vas voir, va se dissiper.
Donc, acteur professionnel et chanteur à l'occasion.
Oui, ça dépend des saisons, ça dépend comment ça se goupille avec le théâtre.
Est-ce que vous avez toujours la clé du Sénégal sur vous?
Peut-on l'avoir sur soi? Oui, j'en ai une, en tout cas, mais c'est en tout cas la porte... Elle change chaque année, puisque chaque année on est un peu différent, et la distance avec le continent se fait un peu, il y a le mal du pays aussi, donc il y a une chose où on y revient un peu à pas lent, à pas doux, pour se sentir toujours de faire partie de ce pays. Mais oui, j'ai toujours une clé proche de mon cœur.
Vous avez d'autres clés, quoi, dans la poche, en fait, et vous aimez ça, avoir un trousseau?
Oui, j'aime beaucoup ça, parce qu'encore une fois, ce que je trouve fort chez l'humain, c'est sa multiplicité, c'est son ouverture au monde, et d'être dans la capacité d'être modifié tout le temps.
Maintenant que vous êtes intermittent, est-ce que pour vous la prochaine étape c'est la nationalité française ou c'est déjà fait?
C'est déjà fait.
Waouh.
C'est déjà fait. Ouais, ça a été une question pendant longtemps et ça a été compliqué parce que les politiques en France ne me permettaient pas d'avoir envie d'être français.
Ah bon?
Oui, par exemple sous Sarkozy, je ne voulais pas être français, je ne voulais pas que mon président soit cet homme-là. Et puis finalement, je me suis un peu éloigné de la politique, en tout cas de penser que être français, c'était forcément un rapport avec la politique qu'on y menait. Mais je me suis rapproché de l'humain. Et c'est là que je me suis dit que je fais face à ma réalité, que je vivais dans ce pays-là, que j'avais deux enfants français, que j'avais ma vie, mon organisation, mon métier en France, et que les humains que je côtoyais, ce que je vivais, étaient français. Donc c'était logique, en fait, au bout d'un moment, de faire la demande.
Merci Adama Diop, je rappelle que on peut pas vous louper au Festival d'Avignon, il faudra consulter notre site pour en savoir plus. Et pour en sol majeur, j'aimerais qu'on referme cette émission. Je sais, Julien, vous aviez programmé Youssou N'Dour et MC Solar, on les embrasse, mais on va finir plutôt avec Sam Cooke, la classe.
Très grande classe.
Intégrale.
Et je voudrais juste dire quand même qu'à la rentrée, on pourra voir un spectacle d'un très grand metteur en scène allemand qui s'appelle Frank Kastorf, avec qui j'ai la très très grande chance de travailler. Et on jouera à la MC 93 en décembre.
À Bobigny.
À Bobigny, Bajazet de Racine et des textes d'Artaud.
Racine et Artaud, au programme d'Adama Diop, c'est noté. Une seconde avant de retrouver Sam Cooke, j'aimerais qu'on se quitte sur la voix de Joseph Ndiaye, que vous chérissez, n'est-ce pas ?
Bah oui, parce qu'on reparle encore une fois d'un homme qui a voué sa vie à la maison des esclaves à Gorée, qui m'a parlé, qui nous a parlé, tous en tant que jeune Sénégalais, et puis même moins jeune. Donc ouais, il a été important.
Et alors, il a eu une très très belle réponse lorsque Thierry Ardisson lui disait que Jacques Chirac, l'ancien président, avait présenté des excuses en 2005 pour l'esclavage. C'est une réponse qui vaut pour toutes les Christine Angot potentielles.
Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Parce que l'esclavage, n'oubliez pas que l'esclavage a duré 300 ans, de 1536 à 1848. Et je dis souvent qu'on parle beaucoup des camps de concentration juifs, que nous respectons, nous, en tant qu'Africains. Les camps de concentration juifs n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des Noirs aura duré 300 ans, 3 siècles, et on n'en parle presque jamais. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, de ce sentier africain, qui est la maison d'esclaves de Gorée, j'en parlerai toute ma vie. J'en ai fait un sacerdoce.
In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis bien sûr en podcast sur notre application Pure Radio et derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, je vois Laura Pinto qui fait une tête derrière la vitre si vous ne le savez pas encore, mais qu'est-ce qu'on va faire? Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine autour d'une rediffusion avec Cécile Ladjali. À la semaine prochaine.